L'année 2025 est difficile pour Tesla. Depuis l'investiture de Donald Trump et l'arrivée marquée d'Elon Musk dans la vie politique américaine, le cours de l'action et les ventes sont en chute libre. Certains clients ont vu leurs véhicules dégradés, des concessions ont été incendiées et des journées d'action contre la marque ont été organisées. Un tournant qui était loin d'imaginer les nombreux clients ayant acheté leurs véhicules il y a plusieurs années. Sans forcément s'attarder sur toutes les actions controversées de son CEO, il y a des choses à dire sur Tesla. La marque a lancé son modèle Y en Europe au mois de janvier, a récemment dû rappeler ses Cybertrucks suite à des problèmes de finition. L'arrivée de l'administration Trump fait que la marque est quasi constamment au cœur de l'actualité. Que pensent les propriétaires de Tesla de la rédaction? C'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Kernel Panic. Pour discuter de tout cela, nous avons réuni les trois propriétaires de Tesla de la rédaction, à savoir Cédric, Nicolas et Greg. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Salut.
Bonjour.
On va tout de suite mettre les pieds dans le plat avec une question que beaucoup de nos auditeurs doivent se poser. Avoir une Tesla en 2025, ça se passe comment? Est-ce qu'on vous a pété votre rétro? Vous avez dû commander des stickers anti-Elon pour votre voiture? Nicolas, toi qui es venu de Bretagne là pour nous, est-ce qu'on t'a...
On est venu sans avec nos rétros, voilà, ouais. Ils sont toujours là, ils fonctionnent. moi, j'ai pas vraiment eu de problème lié à Elon, même si j'ai eu une rayure... En fait, la première année où on achetait la voiture, quelqu'un a rayé notre voiture tout le côté.
Ouais.
En plus, c'est arrivé quand on était chez nous. Enfin, la voiture était garée chez nous, mais voilà, c'était... Après, je ne sais pas si c'était parce que c'était une Tesla ou si juste c'était une voiture noire. Le carrossier nous a dit que c'était souvent les voitures noires qui étaient visées.
Ouais. Ça ne m'étonnerait pas, vu que mon père avait eu le même coup sur une 406, donc bon...
ça a l'air assez classique, ouais. Ça se voit bien, faut dire.
Oui.
Mais plus récemment, non, c'est mon conjoint, il ne sait pas si c'était lié à la Tesla ou pas, mais dans mon petit bled paumé de Bretagne, là, il y a un petit vieux qui l'a regardé en rigolant et il se demande si c'est pas parce qu'il a dû voir, je sais pas, la télé ou
ah
quoi,
oui, ouais.
Dans les infos, que voilà, ça, il y avait quelque chose à ce sujet.
Non, moi de mon côté, pas de dégradation, rien du tout. Même sur Lyon, même garé dans les rues,
ouais. Bon,
voilà, rien du tout. Juste dans mon entourage proche et moins proche des petites moqueries, si j'ai acheté l'autocollant Tesla, si,
ah oui, ouais.
Qu'est-ce que je compte faire, voilà, mon avis un peu sur ce qui se passe, on sent que ces gens-là ont vu, via les médias, des choses sur Elon Musk,
ouais,
mais
ouais.
Ils savent pas trop pourquoi non plus, voilà, c'est juste pour lancer une discussion. Quoi.
Ok, ouais, d'accord.
Ah oui, dans un sens, t'es courageux, toi, parce que deuxième ville de France avec une Tesla, j'aurais pas essayé.
Ouais, ouais.
Il y en a beaucoup ici.
Oui, bah oui, c'est ce que j'ai pu remarquer quand je suis venu l'autre jour. Il y en a quand même un petit paxon. Bah, moi, de mon côté, à Caen, c'est calme, j'ai envie de dire. J'ai bien eu un accrochage hier, mais ironiquement, c'était pas pour la voiture. C'est juste que la personne savait pas conduire et roulait comme une balle sur un parking.
Okay.
Elle est même partie en faisant un délit de fuite. Si je la retrouve, je l'étrangle et je la découpe en rondelles.
Et est-ce que les événements de ces derniers mois, ça a changé votre perception de la marque?
Bah, c'est difficile à dire non, je pense.
Clairement, oui.
Ouais. Oui,
clairement. Clairement. Autant je me permets du coup de passer avant mes deux camarades, autant clairement avant j'étais à fond sur la marque et je trouvais ça génial, autant là c'est clair et net que tant qu'ils ne l'auront pas dégagé de la tête de la marque, il est hors de question que j'en rachète une, quoi.
Ouais.
Ça, c'est clair et net. Ça pourra venir s'il se barre, mais tant qu'il est à la tête de la marque, je regarderai ailleurs, quitte à avoir une voiture avec moins de fonctionnalités geek.
Ouais.
Je pense qu'il y a maintenant, acheter une voiture, le moindre objet qu'on achète, ça devient un peu politique, et du coup, ouais, il faut faire attention, et moi aussi, c'est pareil, dès que je changerai. En fait, ce qui est difficile, c'est que c'est quand même des objets qui sont très chers, donc on peut pas dire qu'un peu comme, tiens, j'arrête Spotify parce que, je suis plus en accord avec leurs idées, c'est plus facile. Là, dire demain je change de voiture,
oui, c'est
un investissement qui se fait sur le long terme avec,
ouais.
Et voilà, donc avec des coûts du coup qui sont chers. Voilà, une prochaine, mais quand, je sais pas. En tout cas, oui, là à instant T, si je devais changer de voiture, évidemment que j'irais pas chez Tesla.
Ouais. Oui, de toute manière, c'est difficile de parler de Tesla sans parler d'Elon Musk et sans parler de Donald Trump, du coup, par extension.
Ouais.
Ils ont quand même fait une séance de téléachat devant la Maison Blanche. Hein. C'était assez... Enfin, c'est assez visible, les liens.
Oui, ouais.
On sait bien
que... C'était non seulement visible, mais creepy.
Bah, c'est leur style, hein. Ça, après, voilà, c'est toujours... Mais oui, il utilise toutes ses entreprises pour son propre agenda politique, donc... Quel que soit tout ce que Elon Musk fait, on sait très bien que c'est orienté dans un sens en particulier. Et chez Tesla aussi, Et voilà, il essaie de faire croire que les difficultés récentes, parce que c'est vrai que de manière générale, au-delà de nos avis, on voit bien que Tesla a du mal à vendre, même si, alors il faut rester prudent, parce qu'il y a des fois des sites qui disent que ça y est, les ventes se sont cassées la figure, mais il ne faut pas oublier notamment que la nouvelle, le modèle Y, qui est attendue sans doute par beaucoup de gens et qui n'est pas tout à fait livrée. En fait, ils ont commencé à vendre, enfin à livrer les premiers modèles très chers là, qu'ils ont vendus, mais le vrai test pour moi, ça sera plutôt autour de mai, quand ils vont commencer à vendre la version de base, qui sera la plus populaire comme la précédente dans la gamme. Et donc là, on verra si vraiment il y a un effet Elon Musk sur Tesla.
Et puis, le prix d'appel n'est pas le même. C'est-à-dire que l'ancien modèle Y, là, en décembre, tu le décrochais beaucoup moins cher que le nouveau modèle.
Parce qu'ils faisaient des promos pour voilà. S'en débarrasser. C'est toujours le cas, d'ailleurs.
Ouais, du coup, les chiffres de vente, du coup, sont hyper faussés par leur marketing.
Ouais. Toujours, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré tout, on sait qu'ils ont des difficultés à vendre. De toute façon, c'est un mouvement un peu global. On voit bien, c'est encore même plus puissant aux États-Unis, je pense, qu'en Europe, ce mouvement anti-Tesla. Il y a des manifestations devant les magasins, ce genre de choses. Et puis nous, on peut le voir de notre côté. Hein. C'est vrai que c'est un peu comme Apple. C'est Christophe qui en parle régulièrement, Apple, avec le programme d'affiliation qui enlève les produits tant qu'ils marchent et qui les ajoute quand ils ne marchent plus. Tesla, ils font un peu pareil. Alors, c'est pas exactement la même chose, mais le parrainage, par exemple. Moi, quand j'ai acheté ma voiture, le parrainage a mystérieusement disparu. Alors, c'était l'époque, en 2021, où ils vendaient par camion entier. Il y avait des délais d'attente de plusieurs mois, etc. Donc, ils n'avaient aucun problème à vendre. Là, il n'y avait rien. Maintenant, ça fait quelques temps qu'il est là, de nouveau. Ils offrent des supercharges, ils font des crédits super avantageux. Et il y a des voitures en stock un peu... Alors, à part la nouvelle Model Y, c'est un peu particulier, mais sinon... Voilà, si vous voulez une Tesla, vous en aurez une très rapidement, il n'y a pas de souci. Donc on voit bien quand même qu'il y a
quelque chose. Je peux te dire que de toute façon, ils sont à fond. Pour avoir testé la nouvelle modèle Y l'autre jour, bon, je l'ai testé juste comme ça, histoire de voir ce que ça donnait. J'ai reçu un SMS de remerciement de l'avoir testé, j'ai reçu un appel le lendemain pour savoir ce que j'en ai pensé, et j'ai même reçu un mail me disant que si j'ai une entreprise, ils peuvent venir faire des essais dans l'entreprise. Ah oui. Donc, ouais, ils sont à fond en ce moment, hein. Donc ça donne une petite idée des choses.
Bah, de manière plus... Enfin, si on reprend un peu de recul, la production en 2024 de Tesla était plus faible qu'en 2023. C'est quand même la première fois de son histoire que ça arrive, qu'une année sur l'autre, il y a une baisse de production. Et là, le premier trimestre, on ne sait pas encore, mais globalement, ça risque de ne pas être très bon. Le suivant non plus. Bon, en tout cas, il y a un mouvement. Ils ont du mal à vendre, quoi. Ils vendent plus comme avant.
Et est-ce qu'ils essayent de fidéliser un peu leurs anciens clients ? Enfin, la marque, ça chauffe un peu là depuis 2-3 mois. Est-ce qu'ils disent, tiens, est-ce qu'on va essayer de garder nos clients ? Est-ce que vous avez eu, je sais pas, des offres promo ? Est-ce qu'ils vous offrent des options, des bons de réduction ?
Dalle, hein, j'ai l'impression.
Non, par contre, ils font du marketing quand même, parce que moi, j'ai reçu aussi des mails me disant, notamment avec la nouvelle Model 3, puis même avec la Model Y, ils disent, ah, si vous voulez changer votre voiture pour prendre une nouvelle, ça, ils le font.
Ouais, mais ils t'indiquent juste.
Tout à fait.
On a les mêmes avantages que de nouveaux clients, quoi. Et encore, on peut pas se faire pareil.
Je me rappelle bien, les seuls qui ont des avantages à qui ils poussent vraiment des trucs, genre supercharge gratuite et autres, c'est, on va dire, les gros clients qui achètent des modèles S ou des modèles X.
Non, c'est le cas pour tout le monde maintenant. Non. Maintenant, c'est le cas, oui. T'as un an de supercharge gratuite, par exemple, si tu prends une modèle Y en stock. Alors, c'est l'ancienne.
Waouh!
Mais ça, ils le proposent. Non, mais ils ont des stocks à vider. Mais après,
c'est pas faux.
Il faut savoir que Tesla, c'est une marque extrêmement radine. C'est bien pire qu'Apple, même dans ce domaine.
Ah oui.
Donc, tu peux rien avoir. Et alors qu'effectivement, bah, par exemple, ils ont des options logicielles. Donc, ça leur coûte mais zéro d'activer, par exemple, l'autopilote amélioré, qui apporte quelques fonctions. Donc, c'est une option à 3 800 €. Et même si, pour une raison X ou Y, tu pourrais dire, même là-dessus, par exemple, ils peuvent pas dire, tiens, je t'enlève 500 € et tu peux l'avoir pour un moins cher. Non, ça n'existe pas. Et effectivement, même la supercharge gratuite, c'est compliqué. Sauf, effectivement, quand ils veulent vendre, ça, ils savent faire, mais c'est toujours aussi quand tu veux acheter une nouvelle voiture. C'est pas, il faut que tu mettes quelque chose et après, éventuellement, ils te font des cadeaux, mais après, même la supercharge gratuite, par exemple, on a l'impression que c'est un super cadeau. Quand tu réfléchis, en moyenne, c'est surtout au prix actuel de la charge, mais quand on pense à ce que paye Tesla, c'est pas des gros cadeaux. Hein,
Sur un an, si on... Enfin, moi, je l'utilise que pour les vacances. Donc ça va jouer sur peut-être une quinzaine de trajets, quoi.
Ah ouais. Et même si tu utilises que ça, même si tu charges que avec ça, en fait, tu calcules, si tu fais des calculs, oui, à part France, si t'es taxi, par exemple, ouais. et que tu utilises que la supercharge, voilà, des cas un peu bizarres comme ça, mais ouais. pour un utilisateur lambda, en fait, c'est quelques centaines d'euros de cadeaux, quoi. C'est pas grand-chose.
Oui.
Pour revenir un peu à ce que tu disais, la perception de la marque, tout ça, moi, je remarque quand même sur Internet qu'il y a quand même une scission des utilisateurs Tesla. J'ai l'impression qu'il y a ceux qui sont pros et ceux qui sont contre.
Ouais.
Et je pense que ça se voit sur les réseaux sociaux. Oui. Il y a même des groupes qui diffèrent.
C'est assez terrible à ce niveau-là, surtout quand je vois sur Facebook, par exemple, le Tesla Owners Club France ou le Tesla Fan francophone,
ouais.
où oui, il y a une très très grosse scission, c'est clair et net, comme tu disais. Et le fait est que ceux qui ont la moindre volonté de dire quelque chose contre Musk, que ça soit politiquement ou même en dehors de la politique, mais c'est limite s'ils se font pas enterrer par les autres membres de ces groupes-là. Donc, au bout d'un moment, ça devient même carrément pénible. Moi, j'y passe juste pour voir s'il y a des trucs importants qui arrivent, mais sinon, c'est même plus la peine d'essayer d'avoir une interaction.
Je pense qu'il y en a qui ont du mal, enfin j'ai eu l'impression de percevoir ça, qui ont, je pense, qui ont du mal à se dire que Elon Musk est un con, et que du coup, enfin en tout cas de mon avis, et en fait le fait d'attaquer, ils peuvent pas se dire ok, j'ai une Tesla et j'ai son dirigeant est pas ouf, ils arrivent pas à concevoir que les deux soient possibles. En fait, c'est soit j'ai une Tesla, du coup, je suis obligé d'adhérer à ce qu'est Elon Musk, soit, du coup, je suis obligé de changer de voiture. Alors que souvent, juste d'accepter que le dirigeant est pas ouf et que, il faut être conscient de tout. Enfin, voilà, pas fermer les yeux. Ça, c'est dur pour certaines personnes.
Il faut dire que c'est une particularité de Tesla. Ses fans ont toujours été un peu compliqués ou problématiques. Il y a beaucoup de fanatiques, de fanatisme. Et effectivement, c'est tout blanc ou noir. Et oui, et puis c'est né en fait, il faut se rappeler, c'est un peu comme Apple dans un autre... Enfin si, c'est un peu comme Apple. Tesla, il y a quelques années encore, c'était très minoritaire, c'était assez confidentiel. Et ça permet de renforcer le sentiment d'appartenance quand t'as une Tesla, voilà, tu t'appartiens à un groupe. En plus, il y avait un côté un peu futurisme, un peu par rapport à leur voiture. Et de basculer dans un autre monde où Tesla a été le plus gros constructeur électrique, ça sera sans doute plus le cas désormais, mais... ils sont devenus un peu numéro un dans ce domaine, plus tous les problèmes politiques qui sont ajoutés dessus, ça complique les choses et ça m'étonne pas du tout qu'effectivement les communautés se déchirent à ce sujet.
Une question peut-être un peu difficile, est-ce que le prix de votre voiture a chuté sur ces derniers mois ?
En occasion, ouais.
Je regarde même pas, parce que de toute façon, j'ai pas les moyens de racheter une autre voiture, donc celle-là, je la finirai jusqu'au bout.
Ouais.
Donc le moment où elle sera plus avec moi, c'est qu'elle ira à la casse.
Okay, ouais.
Mais oui, le prix a baissé. Après, c'est pas du tout récent. Enfin, faut pas se penser que c'est juste ces derniers mois.
Okay.
Le problème de Tesla, c'est qu'ils ont un modèle où ils doivent produire énormément. Et pour que Tesla fonctionne, il faut qu'ils vendent beaucoup. Donc, ils ont construit des grosses usines, un peu de zéro à part une, mais la plupart sont construites à partir de rien et sont optimisées pour produire énormément et vendre énormément. Et donc pour y arriver, à partir du moment où la demande n'est plus là, et donc ils ont des problèmes de stock, ils cassent les prix.
Ouais.
Donc c'est ce qu'ils ont fait plusieurs fois. Alors ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire que moi, donc, ça fait 4 ans bientôt, et à une période, ma voiture valait plus cher en occasion que ce que j'avais payé neuf, ce qui est quand même assez fou. Ça n'a pas duré très longtemps, mais voilà, juste avant l'arrivée de la Model Y. La Model Y a fait énormément de mal au marché de l'occasion de la Model 3, parce que c'est un SUV, la Model 3 c'est une berline, et c'est le modèle le plus demandé, donc les ventes ont basculé côté Model Y, mais c'est vrai que depuis que le Model Y est arrivé, les Model 3 ont moins la cote, et le prix a baissé. Surtout à cause de Tesla, d'ailleurs.
Et tu ajoutes à ça le bonus écologique français, qui fait que ça casse... Enfin, quelqu'un qui l'a eu sans bonus écologique, sa Tesla, il aura une plus grosse décote que quelqu'un qui l'aura acheté avec le bonus, il va la revendre, parce que lui, il l'a payé, donc du coup, moins cher.
Il y a toujours ce bonus écologique, là, ou c'est fini, ça ?
C'est compliqué.
Toujours là, mais très, très, très bas, ouais.
C'est uniquement sur certaines voitures.
Sur les modèles Y, je crois.
Il faut que les voitures soient faites en Europe, donc effectivement, uniquement la Y, mais pas la nouvelle pour l'instant, du coup.
Ouais.
Ça va venir, mais voilà. Et c'est maximum 2000 euros. Donc si on remonte quelques années en arrière, moi, quand j'ai acheté la mienne, c'était 7000 euros, le bonus écologique. Il y avait en plus à l'époque la possibilité de mettre une voiture
prime à la casse, ouais.
Prime à la casse, 2 500 € de plus. Et donc moi j'avais payé 35 000 € ma modèle 3. Et donc j'ai regardé pour préparer le podcast. L'équivalent aujourd'hui c'est à peu près 20 000 € en occasion.
Ouais.
Un peu en dessous je pense, mais voilà, autour de 20 000 €, okay. Pour donner une idée.
D'accord. Et est-ce que vous envisagez de changer de voiture plus tôt du coup avec tout ce qui se passe en ce moment?
Bah, comme je le disais juste avant, c'est que c'est tellement un achat, un gros achat financier. Ah, c'est vrai, c'est un gros financier que, en fait, c'est pas possible. Ouais, enfin, c'est... en tout cas, moi, j'ai pas les moyens de changer de voiture tout de suite. Surtout si, en plus, elle se revend pas.
Ouais.
Enfin, si par exemple, on la revend 20 000 €, comme dit Nicolas, qu'est-ce qu'on a à 20 000 € maintenant en face qui a. Enfin, c'est quand même des voitures où tu peux avoir une famille dedans. Enfin, là, je crois, pense qu'à 20 000 balles d'occasion, on n'est pas loin d'une. Une citadine aussi en face, quoi. Okay. Une ID3, je sais pas. Peut-être un peu plus. Ouais.
Un peu la même chose, de toute façon. Le seul moment où je changerais, c'est si je change avant, c'est que j'ai gagné au loto, mais là, ça sera pour une McLaren ou une Ferrari.
Ouais, non, bah, comme tout le monde. Hein.
Ouais.
C'est une voiture, ça ne change pas du jour au lendemain. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incitations sur les réseaux sociaux de gens qui disent faut se débarrasser de sa voiture, faut se débarrasser de sa voiture. Mmh. Après, ce qui marche assez bien dans notre monde, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui louent les voitures. Mmh. Donc au bout de 2-3 ans, c'est fini et tu peux changer dans ce cas plus facilement. Mais c'est vrai que moi, par exemple, ce n'est pas mon cas. On a acheté la voiture, on a un crédit dessus. Donc voilà, il n'est pas question qu'on change. En tout cas, on peut pas changer du jour au lendemain sans, voilà, c'est comme ça, quoi. C'est pas si simple. Contrairement, par exemple, à un réseau social. Ça, on peut abandonner facilement un réseau social, mais abandonner une voiture.
Oui, ou même encore un téléphone mobile. Si l'iPhone devenait ONI au point qu'on ne veuille plus l'utiliser, c'est pas trop compliqué de changer d'iPhone et de passer sur Android s'il le fallait, mais. Entre 2000 balles et 45 ou 50 000 balles, il y a quand même une grande différence, quoi.
Et en faisant abstraction de la partie politique, tout ça, en se concentrant sur le véhicule en lui-même, est-ce que vous êtes encore satisfait de votre achat ? Nicolas, toi, ça fait quasiment 4 ans que t'as la tienne. Cédric, c'est pareil. Ouais. Greg, ça fait combien de temps que t'as ta Tesla ?
Ça va faire... Alors, attends que je réfléchisse. Ça fera 5 ans au mois de juin et plus de 194 000 km.
Ok. Et c'est... Quelle voiture t'as, toi ?
La modèle 3 Longrange.
D'accord. Et vous deux ?
Moi, j'ai une Longrange aussi, ouais.
Non, moi j'ai la version de base qui s'appelait SR Plus à l'époque, que j'ai acheté effectivement en mai 2021, donc ça va faire 4 ans.
C'est quoi la différence entre les deux ?
La batterie, et le nombre de moteurs. Mais moi j'ai une petite batterie autour de 55 kWh. Alors c'est sans doute différent pour Greg, parce que à l'époque je sais plus, mais c'est entre 70 et 80 pour eux. Donc plus
de. Ça devait être. Je sais même plus. Je sais plus, ça devait être 75, je crois, un truc comme ça. Mmh. Et. Deux moteurs, donc du coup c'est une 4 roues motrices.
C'est ça aussi la différence, mais oui. Maintenant il y a des long range propulsion aussi, donc c'est un peu. Mais oui, c'est. La distinction des voitures chez Tesla, c'est surtout la batterie et le nombre de moteurs.
D'accord. Et vous êtes toujours content du véhicule ?
Oui. Bah...
oui, non, bah moi oui. C'est... Ouais. Quand on a acheté la voiture, en fait, donc en janvier 2021, Tesla a fait quelque chose, comme je disais tout à l'heure, ils ont fait un truc un peu bizarre, ils ont baissé pour les clients, en fait, ils payaient 11 000 € de moins. Alors c'est parce que, en grande partie à cause du bonus, mais en gros, ils ont baissé le prix suffisamment pour que la Model 3 de base entre dans la zone où le bonus était acceptable. Donc 11 000 € de moins, c'est impressionnant, hein, quand même, pour une voiture. Et du coup, ça nous a permis de l'acheter. Donc c'était un peu... Enfin, moi, c'est vrai que je suis l'actualité de Tesla avant ça, depuis... je crois que la première news que j'avais publiée, je sais plus, c'était en 2013 ou 2014, donc ça fait quand même pas mal d'années. Ça me semblait toujours un peu un rêve inaccessible, plutôt. On avait testé ensemble, Cédric, je sais pas si tu te rappelles, ils nous avaient...
Model X,
ouais. Ouais, c'était un Model X, c'est fou. C'était avant l'arrivée de la Model 3, c'était en 2017, donc il n'y avait que la Model S et Model X à l'époque. C'est pour ça que c'était complètement inaccessible, parce que...
Ah, puis il valait une fortune, cela.
Exactement. Ouais. Mais on avait été, c'était Tesla à Lyon... qui, à l'époque, c'était tout petit, évidemment. Enfin, je dis évidemment non, mais aujourd'hui, en fait, les centres de livraison Tesla, tout ça, c'est devenu des usines énormes, mais à l'époque, c'était vraiment un tout petit truc à côté de Lyon, et ils nous avaient fait un test, on avait pu rouler tout. Et c'est vrai qu'il y avait un côté magique, et c'est une voiture très geek, hein, je pense que tout le monde le sait maintenant, un ordinateur sur roue, comme on dit tout le temps, donc voilà, c'est... Pour les geeks que nous sommes tous ici, je pense, ça reste... satisfaisant. Enfin, je veux pas parler pour les autres. Mais...
Ouais, moi, du coup, j'avais jamais eu de voiture neuve déjà depuis pareil. Toute ma vie. je trouve que c'est quand même c'est un des modèles haut de gamme. J'avais jamais eu de modèle haut de gamme. J'ai toujours eu des citadines très basiques, juste avec les vitres électriques et je suis même pas sûr d'avoir eu la clim auto. Tu vois, enfin des trucs qui sont basiques maintenant dans plein de voitures, mais voilà. Et ben déjà il y a donc c'est hyper difficile de se dire est-ce que c'est fou ou pas fou parce que ça se trouve des gens qui ont des Mercedes ils doivent se dire bah Tesla c'est pas si dingue finalement. En tout cas moi j'ai eu un step up impressionnant du coup du cuir partout voilà des moi ce qui m'a plus choqué le premier truc qui m'a choqué c'est cette conduite à une pédale que en 2020-2021 n'existait nulle part. Je crois mes parents l'avaient en option sur une Nissan Leaf. Mais pareil, c'était pas hyper mis en avant.
C'est quoi ça, conduite à une pédale ?
Bah, tu conduis une pédale, en fait, tu utilises le frein génératif pour freiner au maximum. Okay. Et du coup,
tu conduis qu'avec l'accélérateur.
Ouais, conduis qu'avec l'accélérateur. Okay.
Donc, quand tu lâches l'accélérateur, le moteur tourne dans l'autre sens, en quelque sorte, et freine la voiture, et en même temps, il recharge la batterie.
Okay. Voilà l'aspect sans clé.
Ouais.
C'est-à-dire que le nombre de fois où je dois sortir de la maison pour aller chercher un truc dans la voiture, je pense même pas si je dois prendre mes clés ou pas, alors que j'ai une Zoé à côté.
Ouais.
La Zoé, j'arrive devant la porte, je peux pas l'ouvrir. En fait, le téléphone fait clé sur une Tesla. Tu ouvres ou même la montre maintenant depuis quelques temps.
Ouais.
En fait, tu te poses même pas la question. T'es à côté de ta Tesla, tu ouvres la voiture s'ouvre et terminé quoi. Donc c'est toutes ces options là. Voilà,
c'est pas des options.
C'est pas des options, justement. C'est toutes ces caractéristiques, ces fonctions, qui sont, je trouve, folles et qui deviennent même, maintenant, quand je vais dans une autre voiture, je me dis, ah, c'est fou qu'il y ait encore ce décalage-là en 2025 sur des voitures, je trouve, du même standing.
Ouais.
Je pense que dans des voitures très haut de gamme, tu peux avoir ça. Mais voilà.
Non, donc, même pas, ouais. Moi, ce que je trouve, par exemple, on parle toujours du minimalisme de Tesla, qui est vrai. Donc, surtout dans la Model 3 et Model Y, il y a juste un écran au milieu, un volant, et c'est tout. Il n'y a aucun bouton, à part pour la vitre et ce genre de choses, mais tout se fait sur l'écran. Alors, il y en a beaucoup qui voient que c'est un argument négatif, bon, ça, on peut en débattre. Mais surtout, moi, ce que je veux dire, c'est que le minimalisme de Tesla, c'est aussi l'ergonomie. Effectivement, tu rentres avec ton iPhone. Et en plus, c'est mieux que c'est pas juste tu rentres, c'est qu'il sait qui tu es, il sait que c'est toi, et donc il va immédiatement modifier les réglages, donc le siège, la position du siège, il va modifier la position du volant, des rétroviseurs, il va changer les réglages de la clim en fonction de toi ce que tu veux, et tu t'assieds, il a fait tout ça, t'appuies sur la pédale de frein, tu enclenches la vitesse, tu démarres, tu t'occupes pas de démarrer la voiture, tu commences, c'est tout, et ça marche dans l'autre sens, c'est-à-dire que tu t'arrêtes, t'as même pas besoin de passer en mode neutre. D'ailleurs, il suffit d'enlever ta ceinture et hop, elle se met automatiquement en mode neutre.
Ou d'ouvrir la porte, ouais.
Ou d'ouvrir la porte, ouais. Bon, normalement, t'as ta ceinture, mais oui. Et après, tu sors, elle se referme et on n'en parle plus.
Ouais.
Et c'est vrai que ce côté-là, c'est assez magique quand on a connu et quand on aime. Et c'est vrai que beaucoup de voitures électriques, même très chères, par exemple, la plupart des voitures qui viennent des constructeurs généralistes, il y a un bouton de démarrage. Donc, t'as une étape en plus où tu dois appuyer sur le bouton de démarrage. Tu dois, voilà, comme une voiture à essence, quoi. Alors, ça n'a pas de sens parce que le moteur, il est tout le temps démarré, en fait. La voiture, elle est alimentée, elle pourrait démarrer. Mais ça, c'est une question de philosophie, quoi.
Moi, ce qui me frustre le plus sur ma Zoé, c'est ce système de... je peux pas lâcher l'accélérateur et la voiture s'arrête. Il y a toujours ce moment où elle repart. Alors, on m'a dit que c'était pour imiter les boîtes automatiques des thermiques.
Les boîtes auto, ouais.
Et ça, je trouve ça fou. Moi, j'ai jamais eu de boîte automatique thermique. Et du coup, là, moi, ça m'embête tout le temps. J'arrive à un feu. La Tesla, on lâche toutes les pédales. En plus, avec le frein, souvent, ça colle. On arrive assez vite à comprendre quand il faut lâcher l'accélérateur pour s'arrêter au feu. Et la voiture s'arrête. La Zoé, tu lâches l'accélérateur. Elle va freiner un max. Et puis après, elle va repartir toute seule comme un point de patinage. Ouais, voilà. Ouais.
Mais oui, ça fait partie des trucs que... En fait, c'est l'avantage de Tesla, ils ont fait toujours que de l'électrique. Et ils ont complètement abandonné la culture du thermique, je pense.
Ouais.
Alors qu'effectivement, la plupart des constructeurs essaient de lisser la transition entre les deux, on va dire. Le problème de la conduite à une pédale quand tu connais pas, c'est que justement, quand tu as l'habitude avec une thermique, tu lâches l'accélérateur, la voiture, elle continue de rouler normalement, tout va bien. Elle est en roue libre. Et tu fais ça avec une Tesla, tout le monde se prend un coup de frein dans la figure.
Ouais.
Et c'est vrai que ça peut être désagréable pour les passagers. Donc il y a ce côté-là. Mais d'un autre côté, tu prends le coup, en fait, super vite. Voilà, tu conduis un peu une Tesla, au bout de quelques kilomètres, tu sais comment faire. Et après, c'est vrai que c'est tellement agréable que voilà, je trouve que c'est difficile de faire sans.
Le fait de conduire une voiture où il n'y a pas de bouton d'arrêt ou marche, ça m'avait joué des tours au tout début où j'ai eu la voiture, sur un contrôle de papier.
Ah oui.
Parce que le gendarme qui demande d'arrêter la voiture, elle est arrêtée, monsieur l'agent. Je peux pas vous donner de clé, rien. Ah oui, désolé.
Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des trucs qui vous gonflent un peu sur vos voitures? Ou des trucs où vous dites après 4 ans, ouais, tiens, ça c'est quand même mal foutu.
La peinture qui est hyper fragile, les trains roulants qui ont tendance à être très fragiles aussi. Au bout de 4 ans et 180 000 bornes, j'en ai eu pour plus de 3 000 euros de changement de pièces. Ouais. Parce qu'il fallait changer la moitié des trains roulants parce que les silent blocks étaient morts. Bon, après, il y a peut-être aussi ma conduite aussi. Je suis pas le gars le plus tranquille du monde, pour ceux qui me connaissent, mais bon. qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le cuir qui a tendance à fatiguer au bout d'un moment, mais bon, ça, c'est... J'ai envie de dire, c'est inhérent à toutes les voitures et à tous les accoudoirs en cuir ou autres. Ou quand on a une transpiration un petit peu acide, bah, le cuir finit par s'abîmer. Donc bon, au bout de 190 000 km et quelques, c'est normal, quoi. Ouais.
Moi je dirais, pour moi les deux plus gros que t'as pas dit, c'est le rayon de braquage.
Oui,
qui est très compliqué parce que c'est une voiture c'est une voiture grosse, hein. En fait c'est aussi un défaut, c'est-à-dire que c'est une voiture américaine, donc pour une voiture américaine c'est une petite voiture, pour nous c'est une grosse voiture, elle est longue, elle est large, c'est tout parce qu'elle est pas haute, et elle braque très mal, donc c'est vrai que beaucoup de choses qu'avec d'autres voitures on peut faire en une fois, bah là il faut faire plusieurs manœuvres. Après les manœuvres sont très agréables à faire dans le genre minimalisme, ça c'est pas mal aussi, c'est vrai que l'ergonomie pour passer les vitesses c'est très bien, on peut le faire même encore en roulant en avant, on peut passer en arrière, etc. Enfin c'est très fluide, mais bon c'est compliqué. Et pour moi le vrai truc qui nous embête toujours c'est le coffre, donc c'est un coffre mâle qui n'est pas un haillon, donc c'est un design traditionnel qu'en Europe on n'aime pas trop, mais qui est très populaire aux États-Unis notamment. Alors on se rend pas compte, la voiture est très grande et il y a énormément de rangement, ça on peut le dire, le coffre est gigantesque, mais il est très bas. Et un exemple bête, ça nous a frappé aussi quand on a eu la voiture, peu de temps après il a fallu qu'on change de four dans notre cuisine, et ben impossible de faire rentrer un four.
Le four c'est mort.
Et oui, et ça paraît pas si grand parce qu'alors avant ça on avait une Yaris, donc vous voyez c'est tout petit une Yaris, hein. Bah, le four il rentrait sans problème là-dedans, parce qu'en fait c'était un haillon qui a une grande ouverture, et en baissant les sièges, on pouvait peut-être mettre deux fours, j'en sais rien. Mais là on a été obligé de le faire livrer,
okay.
Et c'est vrai que c'est assez frustrant parfois. Là par exemple je suis venu depuis la Bretagne jusqu'à Lyon, avec mon conjoint, on avait notre coffre plein, mais en fait je dis qu'il est plein, mais c'est faux. C'est-à-dire qu'on a mis une valise, alors une valise dure, du coup c'est pas l'idéal, mais l'espace qui restait au-dessus de la valise est tellement faible. Il est là, mais il est faible, on n'a rien pu mettre de plus. Et en fait, c'est vrai qu'on utilise beaucoup les sièges à l'arrière, donc heureusement, on n'a pas d'enfant. Mais il y a un côté, c'est pas pratique. C'est pas pratique. Et nous qui bricolons beaucoup, on est en train de rénover notre maison, on fait beaucoup de voyages à la déchetterie, bah, pareil. Voilà, c'est toujours compliqué, on est obligé de mettre sur les sièges, de passer par les portes. Elle a pris quelques coups du coup, parce que voilà, c'est compliqué de mettre tout dans le coffre. Et pour couronner le tout, quand on a commandé notre voiture, on ne pouvait pas mettre d'attelage, on pouvait en mettre un attelage, mais il fallait faire la commande parce que c'était installé à l'usine. Et après, c'est impossible de l'ajouter. Ça, c'est un truc pénible avec Tesla qui est que tout est standardisé à l'extrême. Donc en l'occurrence, voilà, ils ont changé ça. Maintenant, tu peux acheter une voiture, que ce soit la Model 3 ou Model Y, et ajouter l'attelage après. Mais là, à l'époque, ce n'était pas possible. Et ça, c'est un peu mon regret.
C'est pour ça que la mienne est blanche, parce que j'ai pris l'option attelage, voilà. Et du coup, bah, si je prenais une autre couleur, ça me faisait sauter le bonus écologique.
Et moi, c'était pareil, mais j'ai choisi le noir au lieu du blanc et pas l'attelage. Voilà. Ça, je regrette et j'ai eu l'occasion de regretter souvent.
Bah, finalement, tu vois, ça aurait été l'inverse. J'aurais finalement préféré prendre une couleur que prendre l'attelage, parce que dans tout le temps que je l'ai eu, pour l'instant, il m'a servi deux fois.
Mais ça, c'est-à-dire le coût de l'attelage, ça a changé là maintenant, on peut le rajouter après. Ouais,
c'était
un gros défaut de. Ça me fait. Moi, je suis un peu d'accord avec toi. Moi aussi, j'ai regretté de ne pas avoir pris l'attelage. C'est hyper compliqué. Moi, en défaut, je ne sais pas si c'est ça, Greg, aussi, que ça te faisait, mais moi, je trouve que la dual moteur bouffe du pneu plus que des trains roulants. elle, si on a une conduite un peu forte, moi du coup c'est pour ça que je conduis, il y a un mode confort ou un mode standard sur les voitures, et le mode confort, même si on appuie fort sur l'accélérateur, on va avoir une accélération beaucoup plus douce, parce qu'au début je le mettais pas, et en fait je me suis rendu compte que j'ai bouffé les pneus d'origine qui sont très tendres,
ouais.
C'est les pneus sport je crois qu'ils mettent dessus par défaut, je les ai éclatés en...
Comment te dire, le mode confort moi il m'ennuie, ça me saoule. Donc bah c'est simple, je change mes pneus tous les 20 à 25 000 km.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Alors moi j'ai changé une seule fois et j'en suis à 60 000. Et on les a changés il y a à peu près 50 000. Et ils étaient mauvais en fait. On aurait pu attendre un peu.
Il y en a qui ont des conduites calmes, je sais pas comment ils font. J'ai un ami qui a un Model X Plaid. Il a réussi à faire 75 000 bornes avec le premier train de pneus. J'ai fait non mais je pourrais jamais quoi, c'est mort.
C'est ça, ouais. Mais en fait c'est un peu le problème des électriques en général, dès qu'il y a du couple, ça bouffe du pneu quoi.
Ah ouais.
Voilà, si tu as une conduite un peu sportive, okay. C'est mort. Et après moi j'ai eu quand même pas mal de soucis au tout début avec le Bluetooth, c'est-à-dire qu'il fallait que si mon iPhone était en veille, la voiture s'ouvrait pas. Dès que j'appuyais sur l'allumage d'écran, la voiture s'ouvrait. Enfin, si j'avais la poignée dans la main de la Tesla, d'un coup elle s'ouvrait dès que l'iPhone se réveillait.
Okay.
J'ai eu ça, voilà. Donc j'ai dû réinitialiser le Bluetooth plusieurs fois. C'était compliqué. Et puis moi, après, ce qui m'embête, c'est qu'elle soit. Bon, après, c'est peut-être le truc un peu côté geek, mais c'est un peu la politique de vouloir un peu fermer les API. Je trouve ça toujours un peu dommage parce que c'est un véhicule qui coûte cher. Je suis pas sûr que Tesla aient besoin de grappiller 10-20 balles par conducteur pour que les conducteurs accèdent à leur voiture via une API.
Ouais.
Bon,
ça tu dis ça, mais quand tu vois ce qui se passe chez les concurrents où il n'y a rien du tout.
Oui, c'est vrai.
Après, ça m'évoque un autre défaut, moi, par rapport à ça, qui est lié de manière plus générale. C'est vrai que le côté ordinateur sur roue, c'est génial, mais ça a quand même un revers. C'est-à-dire qu'on a eu des nouvelles fonctions. Par exemple, les phares matriciels sur nos voitures, Cédric et moi, on les avait depuis le début, mais ils n'étaient pas activés. Et c'est arrivé cette année. Et oui, c'est très bien.
Moi, je les ai pas.
mais chaque mise à jour, potentiellement, c'est un peu la roulette russe et tu peux avoir des bugs. Et c'est pas qu'une possibilité. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Je me souviens d'un truc rigolo. Alors ça, c'était les toutes premières versions où la trappe se refermait toute seule. Enfin, immédiatement. Je sais pas si tu l'as eu, Greg, mais ça n'a pas duré longtemps.
Oui.
Il y a un moment comme ça.
Putain, à un moment, tu te dis, mais je veux pouvoir mettre la prise.
Mais
quoi,
ça tapait la main, ouais, carrément. Oui, non, quand tu l'enlevais, en fait, dès que tu appuies sur le bouton, paf, ça refermait. Bon, ça, c'était rigolo, voilà, c'était pas grave. Après, il y en a des plus pénibles, notamment, je trouve, sur l'autopilote, donc tout ce qui est assistance à la conduite, où des fois, il y a des versions où tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et là, celle qu'on a actuellement, on a fait pas mal de bornes avec en arrivant, donc on s'en est rendu compte. Bah, par exemple, elle est hyper sensible sur les lignes. Et on a eu plusieurs fois l'alerte, vous savez, où ça bip en rouge et catastrophe.
Ah, l'alerte franchissement, ouais.
Alors qu'on n'avait même pas à peine franchi. Ouais. Et ça, je sais très bien que c'est un bug lié à cette version, parce que la précédente ne le faisait pas. Et voilà, il y a un côté, tu sais jamais. Tu peux avoir des trucs cool, et c'est vrai que ça arrive. Même si, côté interface et fonction, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que le rythme a bien ralenti. Il y a quand même beaucoup moins de choses que la première année où on l'a eu.
C'est moins
beaucoup
fun
de choses.
Aussi.
Ouais. C'est, voilà, ça devient plus. C'est un peu plus. Oui, ils évoluent moins. Mais c'est vrai qu'à ce côté aussi, justement, les phares matriciels, c'est bien maintenant, cool, ouais. Mais au début, il y avait des bugs. Je sais pas si.
Bah, les essuie-glaces automatiques aussi.
Les essuie-glaces automatiques n'ont jamais marché.
Vous ne peignez pas parce que les phares matriciels, moi, de toute façon, je ne les ai pas sur la mienne.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que.
Le fait est que. Le fonctionnement phare automatique. Plein phare automatique n'a jamais réellement fonctionné sur les versions standard.
Ouais.
Est-ce qu'il y a des aspects des. Enfin, je ne connais pas trop la gamme Tesla, mais est-ce qu'il y a des aspects des modèles plus chers ou plus récents, peut-être, que vous aimeriez avoir sur vos voitures? Est-ce qu'il y a des nouveautés un peu qu'ils ont sorties récemment ou qui coûtent plus cher?
Les sièges ventilés.
Ouais. Ça ne te plaît pas, par exemple, sur
non.
la tienne?
Non.
Ouais. La Model S plaît de rien pour pouvoir faire la nique à n'importe quel supercar.
Mais oui, non, les sièges ventilés, ça peut être pas mal, mais ça, c'est un peu gadget, mais bon, c'est.
C'est que sur les dernières, ça, du coup?
C'est ça, ouais.
Okay, ouais.
Parce qu'en fait, il faut savoir que toutes les Tesla ont un toit en verre.
Ouais.
Ce qui est joli et agréable en hiver notamment, mais en été devient un peu
t'as une bande de chaleur si t'es un peu grand avec le crâne rasé,
ouais.
Tu le sens direct, ouais.
Ça, et si tu laisses ta voiture au soleil, tu la retrouves, surtout l'intérieur modèle noir. Je sais pas si t'as du blanc, je crois pas, Greg.
J'ai pas de blanc, moi j'ai du noir, et
ça
justement
chauffe.
Au bout d'un moment, non seulement ça chauffe, mais en plus le cuir vieillissant, bah comme je disais tout à l'heure, attrape tout ce qui peut avoir été sueur de coude et ainsi de suite, et du coup c'est des cuirs qui suintent à la chaleur. Et c'est pas super ragoûtant.
Mais c'est vrai que moi, c'est la première fois que j'avais une carte de recharge. Pour recharger dans certaines bornes, on a des cartes NFC qui a gondolé tellement il a fait chaud dans la voiture.
Ah oui.
Ah oui. Ouais.
Je suis monté à une température. Et en fait, du coup, c'est pour ça que je ne comprenais pas à quoi ça servait. Mmh. Mais dans les réglages, tu peux déclencher un coup de clim si la voiture dépasse 60 degrés, 55.
C'est ajustable maintenant.
C'est ajustable, ouais. D'accord. Parce que du coup, c'est vrai que tu peux avoir des trucs qui fondent.
Mais après, toutes les voitures chauffent au soleil. Hein, mais
Ouais, mais la Tesla avec le temps vert, c'est assez impressionnant.
Dans un sens, c'est là qu'on voit qu'ils ont bien fait leur devoir au niveau de l'écran qui est à l'intérieur de la voiture, parce qu'il résiste bien à la chaleur.
C'est vrai.
Mais c'est plutôt que les sièges, enfin plutôt que les sièges ventilés et tout, ce qui serait bien, mais qu'ils n'ont jamais fait, c'est un vélum, enfin pour fermer le toit. Ça, toutes les voitures font ça. C'est l'idéal.
Pour
fermer le.
Oui. Ouais. Un rideau électrique.
Après tout ça, c'est des détails. Mais Tesla, ce qui est intéressant et très différent des autres constructeurs, c'est qu'ils évoluent. Les voitures évoluent un peu en permanence. Donc en fait, nous, on a des voitures qui commencent à dater un peu tous. On sait si les voitures, les modernes, même si ça se voit pas, sont très différentes. Ils ont ajusté énormément de choses au fil des années, tout ce qui est notamment les amortissements, parce que les voitures Tesla sont toutes assez sportives, mais aussi ont une réputation. Assez juste d'être un peu tape-cul, enfin d'être très dur, quoi.
Pas dur.
Et ils ont bien amélioré ça, je sais, ils ont bien amélioré tout ce qui est isolation sonore, ils ont bien...
Enfin, voilà, ça évolue. Oui.
Donc voilà, mais bon, après...
Oui, quand j'ai testé le dernier modèle Y l'autre jour, à 130 entre la mienne et le nouveau modèle Y, c'est le jour et la nuit, quoi. On s'entend au moins à 130 dans le modèle Y. Dans ma modèle 3 ancienne, non.
Ouais, mais tu vois, par exemple, moi, c'est un truc qu'on m'a tout. Quand j'ai eu la modèle 3, on m'a dit, ah, mais elle est bruyante, machin. Moi, je viens de voiture où je crie pour parler à mon passager.
Ouais.
Donc, du coup, je me dis, mais moi, non, j'entends pas le moteur déjà. J'entends, oui, les roues, on entend les roues, mais c'est. Je venais tellement de loin. En fait, c'est ça, ça dépend du point de comparaison.
Ouais, c'est sûr.
Ben, roule pas dans
Après,
une nouvelle.
C'est sûr, oui.
Et en plus, moi, quand j'ai acheté, quand j'ai eu la Model 3 et quand j'ai acheté ma Zoé, la Zoé, sur le papier, elle était entre 35 et 39 000 euros. Quand j'entends Nicolas qui a payé la sienne 35 000, voilà. C'est que moi, ma Zoé qui peine à aller à 130 et en plus, elle n'est pas du tout insonorisée,
ouais.
Nicolas, il avait une berline, c'est certes énorme. Nous, la Zoé, c'est pratique pour aller en ville, tout ça. Mais voilà, il y a un peu ce point de comparaison qui est complètement fou. Je dis, les
Après,
gens disaient,
c'était le prix le plus bas historique et il n'y a jamais eu et ça reviendra sans doute jamais. Et voilà, mais oui.
Ah ouais, non, c'est carré.
C'est sûr que c'était une super affaire.
Ouais.
J'avais une question de mec qui n'a pas eu de voiture depuis 5 ans et qui avait juste une Hyundai Accent de 2003. J'ai vu que du coup l'intérieur des Tesla, en gros, c'était juste un espèce de gros iPad avec le volant. Est-ce que c'est pas un truc qui peut être un peu relou au quotidien pour aller chercher des options, des trucs? Enfin, j'ai l'impression que ça peut être compliqué d'activer certains trucs.
Avant la Tesla, on avait une Yaris, première génération, et je dis ça, on s'en fiche de la voiture, mais elle avait le compteur au milieu.
Ouais.
Et en fait, c'est pas du tout nouveau, Tesla n'a rien inventé. C'est la première Twingo qui avait ça aussi. Mmh. Chez Renault notamment, ils ont mis beaucoup l'espace, etc. Moi, j'ai appris à conduire. Ouais. En conduite accompagnée avec un espace, et c'était aussi au milieu.
Ouais.
Et en fait, Picasso, les Mini,
oui, il y en a plein. Ouais. Et en fait, on s'y fait parce que ce qu'il faut bien voir, pour moi en tout cas, c'est déjà l'écran est bien organisé, c'est-à-dire que la vitesse actuelle, qui est l'élément le plus important, il est dans le coin, dans le coin en haut à gauche, et donc le plus proche du conducteur. Et que tu baisses le visage en diagonale vers l'écran ou que tu le baisses vers un contour derrière le volant, ça revient au même.
Okay.
Pour moi, ce qui serait vraiment mieux que ça, c'est un affichage tête haute qui te projette la vitesse sur la route. Là, d'accord. Mais entre les deux, franchement, je trouve qu'on s'y fait. Après, je sais que c'est controversé, mais voilà, l'écran, en tout cas, au milieu, me gêne pas. L'absence d'écran devant non plus. Après, pour aller chercher des fonctions, oui, mais est-ce qu'on le fait vraiment constamment en roulant?
C'est bon, que... les commandes vocales.
Ouais, en plus. Mais bon, par exemple, pour comparer avec la Zoé, je me suis rendu compte que toutes les fonctions que je cherchais, au final, c'est la musique, les podcasts, donc CarPlay sur la Zoé. Et en fait, du coup, je fais les mêmes actions sur la Tesla ou sur la Zoé. Et même, du coup, je trouve que du coup, Tesla a beaucoup mieux intégré toutes ces choses-là. C'est-à-dire que la recherche, une recherche de podcasts et de musique, c'est au même endroit, alors que sur CarPlay, il faut lancer musique, aller dans recherche, lancer podcast, aller dans recherche. La recherche est unifiée chez Tesla, comme peut faire Sonos, par exemple. Donc, en fait, au final, quand les gens disent il n'y a pas de bouton pour tel ou tel truc, moi je comprends pas. Surtout que les boutons sur le volant peuvent être personnalisables pour certaines fonctions. Du coup, je me dis,
ok, je sais pas de moi, j'ai jamais essayé de Tesla, c'est pour ça. Mais quand je voyais ce format-là, je me disais, est-ce que c'est pas embêtant au quotidien ou quoi?
Après, tu peux être embêté et tu peux surtout être distrait par l'écran, ça c'est facile, hein, ça existe. C'est un vrai problème quand tu dois accéder à certaines fonctions, mais je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de concurrents qui font pire que Tesla en termes d'ergonomie logicielle. Parce que c'est vrai que les fonctions sont quand même assez faciles d'accès. Tu peux maintenant effectivement avec les molettes, par exemple, je sais pas, ajuster la vitesse des essuie-glaces puisqu'ils marchent pas très bien toujours. Donc voilà, tu peux le faire sans quitter les yeux même de la route.
Mais en effet, pour des fois, genre tu veux juste mettre le chauffage à l'arrière, c'est 3-4 clics parce que le chauffage est accessible rapidement, mais après il faut changer d'onglet pour passer à l'arrière et activer la ventilation arrière. Donc du coup c'est... sur certains trucs, en effet, c'est plus complexe.
Et là-dessus, ils ont régressé. Notamment, le texte est beaucoup plus fin que quand on a quand on début. Ils ont cédé à la mode des trucs fins, un peu comme iOS 7, mais ce qui, dans une voiture, est encore plus stupide.
C'est la zone de, la zone de détection du doigt.
C'était mieux avant. mais bon, globalement, on n'a pas besoin d'utiliser l'écran, vraiment.
Ok. Et qu'est-ce que vous pensez de l'app et de l'écosystème? Ils vont dans le bon sens? Ils régressent? C'est bien? C'est pas bien?
Alors Cédric a parlé un peu des API tout à l'heure. C'est vrai qu'ils sont en train... En fait, faut savoir que les API, faut peut-être reprendre un peu. À la base, Tesla, il y a une application effectivement mobile qui affiche les données de la voiture. Donc tu peux savoir en direct à quel pourcentage de batterie t'es, si elle est en recharge, à quelle puissance tu recharges. Tu peux activer la clim, tu peux ouvrir les fenêtres, tu peux faire tout ça. Pour que toutes ces fonctions soient, que ça marche. Tesla a créé sa propre API. Donc une API, c'est une interface programmation. Tu me coupes quand tu veux, Cédric, mais voilà, ils ont des serveurs et tu peux envoyer les commandes sur les serveurs et ça va dans la voiture, etc. Et donc cette API là, elle n'était pas officielle pendant longtemps, mais assez bien connue, ce qui a permis d'utiliser. Enfin, il y a tout un écosystème qui s'est créé autour des voitures de Tesla avec des nouvelles d'autres apps ou des services comme on utilisait Tesla Mate avec Cédric. Je ne sais pas si tu connais Greg.
Mais oui, Tesla Mate, oui, je l'utilise. J'utilise tous les jours.
Ça se fait tout seul.
Il est sur mon serveur, quoi.
Exactement. Et donc ça, en fait, Tesla Mate, typiquement, il va récupérer les données qui sont affichées dans l'application Tesla et il les stocke. Donc voilà, ça te fait des historiques, ça te fait des données, ça fait plein de courbes. C'est super quand on est geek. Mais donc, depuis quelques temps, Tesla est en train d'officialiser cette API et surtout la rendre payante. Je pense que c'est ça que tu parlais, ça que tu pensais tout à l'heure, Cédric, en regrettant que l'API disparaisse.
Ouais. Oui, c'est exactement ça. Ouais. C'est de pouvoir garder un contrôle sur la voiture autre que par l'appli et la montre. Enfin, je trouvais ça pratique. Ouais.
Mais c'est vrai que quand tu regardes ce que font les concurrents, c'est assez rare qu'il y ait une telle intégration parce qu'on a vraiment tout. Quand on conduit, par exemple, on a la vitesse, on a la température, on a la pression des pneus. Tout ce que tu vois en fait à l'écran est disponible dans l'API. Enfin, c'est assez impressionnant. Et tu peux tout collecter. Ça, quand t'aimes bien les données comme ça, c'est sympa.
Moi, ce que j'adore, c'est de pouvoir. Je faisais ça aussi avec mes thermiques, c'est de me dire combien j'ai consommé, combien ça me coûte, un peu de suivre le coût, la consommation, et de voir où. Après, quand on me demande est-ce que si la Tesla c'est bien ou pas, en fait, je vais sur Tesla Mate, j'ai toutes les données, et je leur dis par exemple, sur le dernier trajet, la consommation était de temps. Ouais. Et c'est factuel, du coup, c'est. C'est des vrais chiffres et c'est souvent des choses qui parlent aux autres.
Sur tout ce que j'ai enregistré, là, oui, je suis à 2,56€ en moyenne aux 100 km. Bon, c'est correct.
C'est ça, on peut avoir. Moi, j'ai les données sur 4 ans, effectivement, et c'est toujours intéressant d'avoir ces infos. Et puis l'app est quand même pas mal fichue, même si. On pourrait critiquer, etc. Mais c'est pareil, quand tu vois les tests d'autres voitures et que tu vois les applications qu'ils ont, c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal. Par exemple, et puis en plus, ils la mettent à jour tout le temps. Là, assez récemment, tu peux envoyer les commandes en Bluetooth quand tu es à côté. Donc ça, c'est sympa, parce que même si tu es au fin fond d'un parking ou quoi, à partir du moment où tu as apporté du Bluetooth, ça marche encore. Tu as des trucs comme ça où tu dis, c'est quand même bien fichu.
L'une des plus grosses évolutions qu'ils ont fait dans l'app, à mon sens, c'est de pouvoir maintenant consulter les clips qui sont faits par le mode Sentinel.
Tout à fait.
Ça, c'est très pratique.
Surtout par les temps qui courent. Mais oui, tu peux voir la vidéo en direct et tout dans l'app, ouais. C'est pas mal fichu.
Ça, par exemple, c'est pas accessible dans une API, même si c'est pas hyper pratique. Enfin, ça servirait pas à grand-chose, mais Il y a quand même des choses qui sont
pas accessibles. Je pense qu'ils ont limité pour des questions de sécurité dans le pays, à mon avis. Sûr.
Ok. Et donc, si vous deviez changer de véhicule, par exemple, vous aviez pas l'air de trop vouloir rester chez Tesla, où est-ce que vous iriez? Déjà, première question, est-ce que vous n'êtes pas trop embourbé dans l'écosystème Tesla? Par exemple, je sais que sur les iPhones, on peut être... Enfin, vraiment, changer d'iPhone, ça peut être compliqué, parce que tu as ton compte là-bas, tu as des achats, t'as tout un tas d'applis. Est-ce que ça serait facile de passer chez un autre constructeur ou...
Ouais, easy, ouais. Il n'y a pas d'écosystème Tesla. Je même la borne, je crois qu'elle est... Tu peux la réutiliser pour n'importe quelle bagnole, vu que c'est une norme.
Oui, la borne, elle est réutilisable de toute façon. Elle est utilisable avec n'importe quelle voiture.
Ouais.
Après, l'idée, au final, ce que je me dis, si je devais vraiment changer à l'heure actuelle, si elle tombait dans une panne irrémédiable qui fait que je dois changer la voiture, je sais même pas si j'irais dans une autre marque électrique, en fait.
Ah ouais, okay.
Je pense que je basculerais dans un délire totalement différent et que je reviendrais à un délire que j'avais à un certain moment d'être dans des toutes petites voitures de sport. Donc trouver une Lotus Elise d'occasion ou une Caterham 7.
Ok.
Alors pas moi. Mais oui, non, bah alors on en a déjà un peu abordé, mais alors si on devait changer vraiment aujourd'hui, donc déjà moi comme je disais, j'avais regardé, je serais autour de 20 000 euros en revendant ma voiture, et comme tu disais Cédric tout à l'heure, si on regarde un peu, si je voulais quelque chose d'équivalent, en gros il faudrait le double. Pour faire simple, on commence à parler aujourd'hui aux alentours de, enfin 40 000 c'est pas mal, mais voilà, c'est difficile vraiment de descendre en dessous à prestations équivalentes. Du coup, j'ai regardé un peu ce qu'on pouvait avoir pour répondre à ta question.
Ouais.
si j'avais, parce que bon, c'est pas possible, mais imaginons que j'ai ce budget de 40 000 à peu près, qu'est-ce que je ferais? Alors bah, il y a plein d'options. On est en 2025, donc c'est pas mal. C'est vrai que quand j'ai acheté ma Model 3 à l'époque, en gros, le seul concurrent qu'il y avait dans le même budget de prix, c'était Hyundai Kia, qui faisait donc le Kona et Niro, qui était à peu près, voilà, qui avait à peu près une autonomie comparable avec ma voiture, etc. C'était à peu près tout, globalement, parce que sinon tu tombais dans les citadines genre Zoé,
ouais.
Mais là c'était différent, c'était une autonomie plus réduite, et puis surtout il n'y a pas de charge rapide, pas vraiment de charge rapide, enfin bon, c'est un autre délire.
C'est clair.
Donc voilà, il n'y avait pas beaucoup d'options. Aujourd'hui, il y en a plein. Après, qu'est-ce que je prendrais moi? Je suis un peu, quelque part, l'expérience avec Tesla me rend plus exigeant, c'est un peu ça qui est dommage. Typiquement, je voudrais pas de voiture sans one pedal, donc sans conduite à une seule pédale, comme on disait tout à l'heure, ce qui en élimine beaucoup. Malheureusement, par exemple, tout le groupe Volkswagen, pour l'instant, y a pas. Donc, si tu veux vraiment ça, c'est un peu compliqué. C'est dommage parce qu'ils ont des voitures, par ailleurs, je trouve qu'ils sont pas mal techniquement, mais
ouais, c'est... L'ID7 est pas moche en plus maintenant, mais
ça va se viser carrément l'ID7. C'est dommage. mais oui, non.
J'aime les designs bas.
Oui, je vois. Ouais, je pense. Alors moi, je pense qu'on prendrait plutôt un SUV, quoi, genre plutôt ID4. Ou chez Skoda, le Elroq, là, qui est un plus petit, qui est pas mal dans l'idée. Et après, toujours dans cet esprit, justement, Tesla, il n'y a pas d'option, donc on a tout. Et il y a des trucs, j'aurais du mal à faire sans aujourd'hui. Alors, ça peut paraître bête, mais comme je disais tout à l'heure, l'histoire du siège, donc les sièges sont électriques et avec mémoire. Ça, c'est vachement pratique parce que mon conjoint et moi, on est assez différents tailles. Du coup, on a une position de conduite qui est très, très différente. Et notre voiture, la voiture actuelle, gère très bien. C'est-à-dire que voilà, moi, je conduis plutôt assez haut et lui plutôt bas. Et donc, il n'y a pas de souci. Si on n'avait plus, faudrait ajuster à chaque fois. Et c'est quand même chiant, je trouve, de devoir ajuster toujours, de retrouver sa position de conduite et être confortable. Mais le souci, c'est que si on veut ça ailleurs, par exemple, j'ai pris justement l'Elroq parce que je me dis, tiens, il est pas mal, il y a une bonne autonomie, le prix de base est vachement intéressant. Mais si tu veux ça, si tu veux les sièges électriques avec mémoire, déjà, tu pars avec la version forcément haut de gamme. Et ensuite, il faut rajouter encore une option à 3000 euros. Ce qui fait que là, on arrive à 45 000 euros. Et pour ce prix-là, tu as une petite batterie et une autonomie bien moindre que ma voiture. Ce qui est quand même un peu gênant, quoi.
Ouais, c'est exactement ça.
Après, voilà, c'est alors dans le genre, si tu veux des trucs, si t'aimes bien la voiture électrique à la Tesla, par exemple, tout Stellantis, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Ils font des voitures électriques qui peuvent être bonnes, mais c'est des voitures électriques, par exemple, où tu as un bouton d'allumage, où tu as plein de boutons, où tu n'as pas de one pedal, ou enfin voilà, c'est des trucs, tu n'as pas d'application, enfin si tu as une application, mais c'est un autre univers, quoi.
Okay.
Et après, alors si moi je pouvais changer aujourd'hui, voilà, je pense, ce qui me plairait plus, c'est chez XPeng, donc une marque chinoise, leur G6, qui est un clone du modèle Y. C'est impressionnant d'ailleurs, c'est exactement les mêmes dimensions, c'est... ils ont copié à peu près tout ce que fait Tesla. Je le compare un peu, c'est un Tesla sans Elon Musk, donc qui est plutôt... qui est plutôt bien. Un des trucs que j'aime bien, c'est que c'est exactement la même philosophie, le logiciel est passe en premier, donc voilà, il y a des mises à jour qui touchent vraiment à toute la voiture, comme chez Tesla. Ils en font vraiment, ils ont ajouté des fonctions, ils en ajoutent encore. D'ailleurs, je suis allé la tester hier, parce que bon, je profite d'être à Lyon. Alors, l'autre problème comme Tesla, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup, des endroits où tu peux tester des XPeng, mais il y a une concession à Lyon, donc je me suis dit, tiens, je vais aller voir. Et c'est vrai que c'est, par ailleurs, donc c'est le même prix que la Model Y de base, à peu près. On est à 43 000 euros, je crois. La Model Y de base est peut-être à 40... Bah, avec le bonus, je crois que c'est 43 000. Enfin bref, c'est les mêmes zones. Mais c'est beaucoup plus premium. C'est vrai que tu sens que voilà, c'est... Ils visent le premium plutôt à l'allemande que Tesla, qui est un peu... même si ça reste premium, mais qui est un peu un cran en dessous. Et oui, c'est vraiment... enfin, moi, je trouve que c'est vraiment pas mal. Il y a quand même des défauts. Hein, c'est pas... Par rapport à une Tesla, par exemple, un truc bête, on n'en a pas parlé d'ailleurs tout à l'heure pour les avantages, mais un truc qui est génial avec toutes les Tesla, c'est qu'il y a un coffre à l'avant, un frunk on dit. Ça c'est super, parce que déjà ça fait de la place en plus, mais surtout ça fait de la place que tu peux consacrer aux câbles. Ah, oui. Et donc ils sont toujours accessibles, parce que la plupart des voitures électriques, en fait, ils te disent « Ah, il y a un sous-coffre, donc dans le coffre, tu vas encore en dessous ». Le problème, c'est qu'une fois que tu as chargé ta voiture, si tu as des câbles là, ben voilà, faut que tu vides,
alors, vides la voiture. Alors, je mettrai une petite nuance à cette idée. Je ne mettrai plus un câble dans le coffre avant de la voiture depuis que le coffre avant, un jour, n'a jamais voulu s'ouvrir. Et ça m'est arrivé deux fois.
Ah oui. Alors moi, jamais encore, mais...
En gros, le petit moteur qui gère l'ouverture, bah, s'est grippé deux fois parce qu'il a pris l'humidité, il a pris l'oxydation. Et du coup, bah, la première fois que ça m'est arrivé, bah, j'étais bien gonflé parce que je venais de faire un aller entre Caen et Paris pour déposer le MacBook Air de ma compagne qui était en panne et j'ai pas pu le déposer parce qu'il était dans le coffre avant.
Ok, ouais. Et toi, Cédric,
tu as... Donc pour un câble, ça peut être embêtant. Ouais. Désolé.
Moi, je sais pas trop. C'est vrai que j'avais des idées, mais au final, ouais, c'est compliqué parce que moi, je me suis juste basé sur tiens, cette voiture me plaît. Et après, Nicolas me dit ah ouais, mais t'auras pas ça. Et du coup, des trucs que je qui me paraissent tellement évidents dans une voiture et qu'en fait, on se rend compte que bah soit c'est comme dit Nicolas, c'est des options haut de gamme et du coup, ça devient fou. Pour nous, c'est des trucs. Enfin, je pense que Tesla, c'est ça. C'est une petite option qu'ils ont codée, genre les mémoires, les sièges de la mémoire. On se dit que c'est une option qui a été codée vite fait dans le logiciel. Ouais. Et en fait, pour d'autres marques, c'est d'un coup, c'est 15 000 euros de plus parce qu'il faut prendre le pack, la grosse voiture plus l'option. Et là, on se dit, ah ouais, en fait, ce petit truc qu'on se sert tous les jours, en fait, c'est accessible qu'aux gens qui mettent 60 000 euros dans une voiture.
Alors, ce qui est très marrant, c'est certains constructeurs qui ont essayé de prendre l'idée de Tesla, mais qui l'ont prise dans le mauvais sens. Si je me rappelle bien, c'était Audi qui s'est amusé à faire payer des options au mois. Genre, BMW, on peut payer au mois ses sièges chauffants.
Ah oui. Mais j'ai payé mes sièges chauffants, moi. C'était pas fourni d'office.
Oui, mais tu les as payés une fois. Oui. Et c'était une mise à jour de logiciel, mais une fois. Non, il faut que tu payes tous les mois pour avoir ton option.
Mais à tel point, c'est effectivement, on a tout dans les Tesla. Ce qui est rigolo, c'est que moi, j'ai la version d'un coup de base par rapport à vous deux. Et donc, j'ai des trucs physiquement dans ma voiture qui sont pas connectés. Donc, j'ai des LED et j'ai des haut-parleurs qui sont là.
Oui.
Qui, Tesla a dû payer pour les installer, mais en fait, il n'y a pas le câble. Voilà. C'est un peu le côté... Mais oui, c'est vrai que chez les autres constructeurs, si ça coûte cher, par exemple, un siège à mur de forme, c'est que la plupart du temps, bah, tu as une console quelque part avec les boutons pour choisir le profil que tu veux, machin. C'est pas du tout géré par du logiciel, en fait. C'est 100% matériel. Du coup, c'est des câbles en plus de partout. C'est un bazar pas possible. Ouais. C'est l'ancien monde.
Ouais, du coup, en fait, quand on veut changer en venant d'une Tesla, enfin, en tout cas pour ma part, c'est charge rapide, le one pedal, enfin, le conduite à une pédale. Du coup, et puis toutes ces petites options de confort, de conduite, et en fait, c'est difficile, ouais.
Tout de suite, t'as des exigences, et ouais, il n'y a pas forcément ça partout.
Ouais. Alors, c'est ça qui est marrant, quand on discute avec d'autres, on se rend compte que chacun a ses attentes pour une voiture, et que du coup, d'autres diraient, non, moi je m'en fous des sièges, machin. Donc, du coup, ils pourraient se contenter justement d'une voiture type Renault, là, je t'entendais dire Renault. Bah, justement, Renault, des fois, ils font des choix un peu sur des modèles d'entrée de gamme. même le Scénic par exemple, ou la Mégane, il y a des trucs qui manquent, qui pareil, on se demande pourquoi ils n'ont pas mis cette option-là. Ouais. Les options multimédia, par exemple, on se dit, mais maintenant, ils devraient mettre les voitures, c'est bon, Tesla a lancé la mode, on devrait avoir un ordinateur avec un logiciel qui est nickel, un grand écran pour tout le monde, ça devrait être la base dans toutes les voitures. Bah non, chez Renault, encore, il y a des tailles d'écran.
Ah ouais.
Et t'as pas toujours même un GPS, quoi. C'est des fois des options. J'ai dit, c'est fou, en 2025, fou, ouais. Mais ça existe encore.
Ouais. Moi, d'ailleurs, la Zoé, alors moi, j'ai une Zoé de 2021, donc qui est à peu près la même année que ma Tesla. Et ben, ce qui est fou, c'est que l'écran qui affiche la vitesse, donc il y a trois infos sur cet écran-là, l'écran que j'ai derrière le truc, est beaucoup plus défini. Beaucoup plus lumineux, beaucoup plus avec plus de contraste. C'est un écran ultra haut de gamme.
Ouais.
L'écran où il y a CarPlay, il est minuscule. Il a tous les reflets possibles imaginaux. Ouais. Le tactile marche que dalle. Et moi je me suis dit mais quelle idée. Ouais. En fait, du coup il y a j'ai vraiment un et puis le mettre dans les options que l'écran TFT machin trop bien, trop la classe pour la vitesse.
Ouais,
c'est tout. Et l'affichage de la batterie, on peut rien afficher sur les écrans des Zoé. Hein. Oui. Trois trucs qui se courent derrière. Et le CarPlay où là on a besoin justement d'infos rapides, justement pour pas y passer 3 heures parce que l'écran est flou, parce que c'est pas défini, bah là ils ont mis un écran tout pourri. Ou alors faut peut-être monter dans les options, je sais pas, enfin en tout cas dans les Zoé ça reste quand même très basique. Et maintenant on sait que Renault est passé sur Android Auto, donc on se dit que c'est plus cool, les écrans sont mieux. Mais voilà, à l'époque, Tesla en 2021 et une Zoé, c'est vrai que c'était fou
la différence.
Ah, la différence.
Ouais.
Et du coup, pour dire, du coup, ouais, c'était autour de 45 000, sans bonus écologique. Et une Zoé, c'était 35 000. Ouais, il y avait quand même 10 000 euros d'écart. Mais voilà, on était pas loin dans les prix. Enfin, une Zoé, ça coûtait très cher, quoi, à l'époque.
Ok.
Vas-y. Bah, en fait, par rapport à ces histoires où on compare, etc., ce que je trouve intéressant, effectivement, c'est que même en 2025, Tesla reste encore un peu difficile à battre. Pas techniquement, parce que techniquement ils sont pas forcément à la pointe hein, aujourd'hui, notamment sur la recharge. Par exemple, tu parlais de charge rapide. Ce que j'aime bien chez XPeng, c'est que c'est un des rares constructeurs à proposer donc la charge à 800 volts. Alors on dit c'est un peu technique, mais en gros c'est plus rapide. C'est-à-dire que ça existe notamment, c'est les Coréens Hyundai Kia qui était parmi les pionniers là-dessus. Mais ils le proposent aussi sur la petite batterie, donc une batterie équivalente à celle que j'ai mis dans la mienne. Là, on est autour de 60 kWh. Et ça veut dire que quand tu charges peu et très vite, t'as pas besoin en fait d'autonomie très importante. Le plus important, c'est de pouvoir charger très vite et donc de faire des pauses courtes et de repartir. Et donc ça, par exemple, Tesla le propose pas du tout. Enfin, si, sur le Cybertruck, mais en n'en parlant pas en Europe. Donc ils sont pas forcément à la pointe techniquement. Par contre, sur le rapport qualité-prix, c'est difficile de trouver mieux. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment je pense que c'est beaucoup ce modèle de pas avoir d'option. Que tu as tout par défaut, du coup ça permet d'avoir des voitures pas chères quand tu compares vraiment sur certaines fonctions par rapport à la concurrence. C'est un peu une approche par contre qui est très courante en Chine maintenant, même si en fait les constructeurs chinois en Europe sont pas très agressifs, hein, donc pour l'instant il n'y a pas vraiment de concurrence de ce côté là quoi. Mais oui, quand tu regardes les constructeurs européens de manière plus générale, si on se concentre vraiment sur notre marché, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fonctions qui manquent encore. Il y a 4 ans, ça manquait. Et je me disais, ils vont forcément y venir. Typiquement, chez Renault, je trouve ça impressionnant que la conduite à une seule pédale, ça va arriver en 2025 uniquement, et uniquement sur les nouveaux modèles. Donc il va falloir une mise à jour matérielle. Et tous ceux qui ont acheté des voitures depuis n'ont pas. Alors qu'effectivement, comme tu disais, ils sont passés sur Google Android Automotive. Donc c'était la promesse de mise à jour régulière et tout. Ils en ont fait, hein, c'est pas le problème. Mais en fait, c'est des mises à jour juste de l'infodivertissement. C'est pas du tout la même idée. Ouais. Chez Tesla, c'est vrai que toutes les fonctions de la voiture peuvent être mises à jour à distance, ce qui n'est pas le cas ailleurs.
Et d'ailleurs, le 800 volts, c'est dans les bornes. Comment ça se passe? Toutes les bornes peuvent être 800 volts?
Non, les bornes Tesla sont en 400 volts, donc la recharge est en général plus lente que.
Les dernières, les séries 4 sont en 800 volts,
Non. Elles ne le sont pas du tout. Elles le deviendront, elles le peuvent l'être, mais elles ne le sont pas du tout. Pour l'instant, c'est la même stack technique derrière que les V3. Donc, tu as les mêmes vitesses,
etc. Ils auraient installé des 800 volts aux US pour le Cybertruck, en France, ils auraient calé les versions 4 en 400 volts.
Et même aux US, il y en a très peu. Il y en a quelques-unes, mais il y en a très peu. C'est un peu bizarre ce qu'ils ont. De toute façon, le Cybertruck, c'est encore tout un autre truc. On pourrait faire un podcast là-dessus si on voulait, mais
oui.
Elon Musk n'a jamais cru aux 800 volts. Il l'a dit plusieurs fois que c'était pas la peine et qu'il n'y en avait pas besoin. Donc pour l'instant, on est bloqué. Mais bon, dans le reste du monde, tout ce qui est Ionity, tout ce qui est... Tout le monde, en fait, fait du 800 volts. C'est Tesla qui est encore une exception là-dessus et qui n'a...
Et d'ailleurs, en plus, pour revenir sur les options, enfin, ce qu'on disait juste avant, le réseau de superchargeurs, enfin, je vois beaucoup des débats, des gens qui disent « Ouais, mais ça, c'est pas forcément un avantage. » un jour, j'avais du crédit Ionity pour descendre en vacances. J'ai abandonné d'utiliser Ionity parce qu'il n'y a pas assez de bornes et toutes les autres marques qui vont sur Ionity. Du coup, alors que sur le réseau de superchargeurs, l'ordinateur qui calcule en fonction s'il y a de la place dans tel superchargeur ou pas, que du coup tout est intégré. En fait, c'est ça l'écosystème Tesla en vrai. Mm. C'est plutôt le superchargeur et la voiture que de quitter ce truc-là, ce confort. Mental en fait de voilà de charge mentale de dire je pars le matin faire mon trajet, j'ai pas besoin de l'anticiper comme je pourrais le faire avec des applications du type ABRP, tout ça. Là, c'est le logiciel, c'est la Tesla qui discute avec le réseau de superchargeurs et tout se sait et du coup ça préchauffe la batterie, tout est prêt pour que j'arrive, pour que la recharge se fasse le plus rapidement et que j'ai une expérience utilisateur parfaite dans tout. Alors ça, il y a des superchargeurs qui sont pleins, mais j'en ai eu très 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 peu de superchargeurs où il y a quelqu'un qui vient faire un peu le tiens, bah, toi tu peux aller te garer là, il y a une place. Ionity, en août, c'est presque systématique. Qu'il y a quelqu'un qui gère les files d'attente. J'ai pas eu une seule fois, je me rappelle de celui de Montélimar, j'ai dû y aller 5-6 fois. À chaque fois, tout le monde y va, quoi.
Alors c'est vrai, mais je pense que c'est un argument qui disparaît assez vite. Mais oui, c'est vrai. Mais maintenant, il y a quand même des stations, des bornes sur toutes les stations essence. Enfin, ils en rajoutent. Et je pense que de plus en plus, quand même, tu peux t'en sortir en te chargeant à une heure ou à celle d'après, si au pire.
Mmh. Et c'est toutes des 300 kilowatts
Oui, de plus en plus, oui, en tout cas.
Parce qu'il y a eu ça aussi, les Total Energy, toutes les autres marques que Unity sont là avec leurs 50.
Ça change très vite. Ça change très vite et je pense que cet argument disparaît de plus en plus. Okay. En plus, maintenant, il y a le plug and charge, ils appellent ça, où de plus en plus de voitures peuvent être identifiées par la borne, comme chez Tesla. Donc, c'est toujours vrai, mais je dirais, par exemple, si je reprends chez Xpeng, ils n'ont pas de planificateur, mais je me dis, c'est pas forcément trop grave étant donné que tu peux. Effectivement, passer d'une station... tant que t'es sur autoroute, en tout cas, tu peux vraiment un peu improviser, quoi.
Et du coup, le préchauffage de la batterie, il a un intérêt si aucun des constructeurs le prévoit parce qu'ils n'ont pas de planificateur. Est-ce que ça a un intérêt chez Tesla?
Bien sûr, Oui, c'est-à-dire que chez Tesla...
Ça permet de charger plus vite,
Ouais, parce que c'est une grosse différence entre une batterie froide et une batterie chaude.
Alors, sur une batterie LFP, oui. Mais tu peux toujours le faire, Sur les voitures électriques bien faites, t'as toujours du préconditionnement. Mais après, tu peux l'activer à la main, tu peux l'activer, t'as d'autres méthodes. Ça reste plus simple chez Tesla, ça c'est évident. Et pour un débutant, l'avantage c'est que tu mets quelqu'un qui a jamais conduit une électrique de sa vie dans une Tesla, il va se débrouiller. Et il pourra aller à l'autre bout de l'Europe, il y aura pas de problème. Avec d'autres voitures, faut un peu apprendre. Mais nous qui connaissons, par exemple, je pense qu'on se débrouillerait sans trop de problèmes. Mais ça reste un argument. C'est juste qu'en 2021, par exemple, c'était plus qu'un argument. C'est-à-dire que moi, je me souviens en Bretagne, là, il y avait quasiment que les superchargeurs. Et encore, il fallait faire pas mal de routes pour en trouver. C'est vrai que maintenant, il y a non seulement les superchargeurs, il y en a plus, mais même sur des aires, donc c'est pas l'autoroute en Bretagne, je sais pas si vous savez, mais c'est des 4 voies. Et il y a même des toutes petites aires, là, un peu à l'ancienne, où t'as la station, mais t'as pas de place. Enfin, c'est vraiment tout petit, quoi. C'est pas vraiment une aire, mais c'est juste une station sur le bord. Même eux, ils commencent à avoir des bornes, quoi. Et je me dis, tu peux vraiment t'en sortir quand même assez, assez facilement. Heureusement, ça évolue.
J'ai vu qu'ils ont mis un superchargeur à Morlaix.
Il y en a pas mal, oui. Entre chez moi et Nantes, il y a 2 heures de route et on en est à 3 superchargeurs.
Ok.
Ah oui, c'est devenu phénoménal le maillage à ce niveau-là. En plus, les tarifs ne sont pas excessifs.
J'avais une dernière question. C'est vrai qu'à une époque, Tesla, ils avaient une image d'innovateur quand même. Maintenant, avec la concurrence chinoise, c'est peut-être un peu différent. Est-ce que pour vous, Tesla, c'est toujours le... Pas le numéro 1, mais toujours une marque qui innove, qui...
Innove, c'est pas forcément le mot, j'ai envie de dire. Ouais. Parce qu'ils ont fait beaucoup, 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 beaucoup de promesses. Et il y en a beaucoup qu'on attend toujours de voir. Bon, il y a le fameux autopilote que tout le monde grogne en disant mais il est toujours pas là alors que ça fait peut-être bientôt 10 ans qu'il nous le promet.
2015.
Oui, 2015.
Ça serait l'année
suivante. Donc ça fait 10 ans cette année.
Et il y a aussi des modèles carrément de voitures. On attend toujours la fameuse petite Tesla. Tout comme à l'autre bout du spectre, on attend toujours le fameux Roadster 2 qui est censé pulvériser de la Bugatti Veyron au petit-déj. Mais il y a beaucoup de promesses, mais finalement plus beaucoup de choses qui viennent, on va dire.
Ok.
Bah, c'est vrai
Surtout
que
depuis justement qu'Elon a un peu craqué son slip.
ouais. Oui, c'est comme je disais tout à l'heure avec le 800 volts, c'est assez symbolique, mais en fait, le Cybertruck, ils ont ajouté pas mal de nouveautés qu'ils ont trouvées ailleurs, ou des nouveautés tout court, parce que ça a été un des premiers véhicules de série à avoir le volant qui est complètement déconnecté, donc c'est purement numérique, il n'y a pas de lien entre le volant et les roues. Le 800 volts, il a gagné. Un des points aussi, ils sont en retard sur le plan électrique, tout le monde, mais c'est tout ce qui est, alors on dit V2G, V2H, V2, tout ça, c'est quand tu peux utiliser la batterie de ta voiture pour autre chose que conduire, donc par exemple pour alimenter un appareil, voire alimenter ta maison.
Okay.
Ça, c'est un truc que moi j'aimerais avoir, c'est vrai que j'ai 55 kWh dans mon garage qui ne servent à rien la plupart de l'année, en fait, du temps de l'année. Et ça, c'est quelque chose sur lequel. On peut dire Elon Musk, parce que c'est lui-même lui qui a dit, en gros, a dit que c'était pas la peine, que c'était pas important, que les gens n'en voulaient pas, et donc la discussion a été fermée depuis. Et d'autres avancent, c'est vrai, dans ce domaine, notamment en Chine, t'as raison, sur la vitesse de charge aussi, c'est impressionnant les progrès qu'ils arrivent à faire régulièrement. Donc sur le plan technique, je pense pas que ce soit. Ils étaient à une époque, ils étaient beaucoup plus avancés, ils avançaient beaucoup plus, c'était plus marqué, quoi, leur avance technique. Aujourd'hui, je dirais pas que c'est le cas. Après, c'est effectivement, ils ont toujours cet argument de. C'est un peu. Ça, on compare avec Apple, on y revient, mais c'est un peu l'expérience clé en main. Tout est parfait. Oui, tu achètes une Tesla, tu montes dedans, tu sais déjà. Enfin, voilà, au bout de quelques kilomètres, tu maîtrises l'accélération à une pédale, enfin le frein, et puis voilà, le planificateur se débrouille et c'est tout.
Ah non, je suis d'accord. Ouais. Je me dis juste que j'étais en train de réfléchir. Je me dis, est-ce qu'en Europe, les marques européennes. Elles ont rattrapé leur retard parce que j'ai toujours l'impression que c'est l'Europe qui était en galère derrière
oui, non,
ça.
C'est toujours le cas assez ouais. largement.
C'est toujours le cas.
Mais après, par exemple, tu as BMW qui va présenter leur nouvelle plateforme dédiée à l'électrique, Neue Klasse, là, comme ils disent, où ils avancent sur beaucoup de points. Par exemple, Mercedes aussi, là, la nouvelle CLA, elle est vraiment pas mal sur le plan technique. Ils ont vachement bossé l'efficience parce que ça, on n'en a pas parlé, mais c'est un des points forts de Tesla. Donc l'efficience et la consommation, pour faire simple, hein. Et c'est vrai qu'elle est beaucoup plus basse que tous les concurrents. En gros.
Je crois qu'il n'y a que Kia qui arrive à peu près
ah,
à
non,
s'en
non.
sortir à ce niveau-là.
Non,
non,
non, c'est pire, c'est bien pire les dernières
pire.
Hyundai
ah,
Kia. Ah oui, c'est une catastrophe l'efficience. À une époque, ils étaient bien, mais ils ont complètement abandonné ce domaine depuis
Ah, c'est ballot.
Donc non, oui, ça c'est un point, mais. Effectivement, si tu veux vraiment de l'innovation aujourd'hui dans la voiture électrique, en fait, la Chine, c'est un autre monde, hein, à la fois en termes de tarifs et en termes d'innovation.
Ouais.
C'est vrai que tu as des trucs là-bas, tu as des voitures, les prix de base, les prix de base vraiment, ils sont en dessous de 20 000. Mais quand on parle de voiture à 20 000, on s'imagine, nous, une petite citadine et tout. Eux, c'est des berlines.
Okay.
C'est des berlines, toutes
oui.
options. Il y a tout. Les sièges chauffants, ventilés, massants et tout. Tu as des trucs comme ça à 20 000. Et ça, c'est vraiment fou. Et quand tu montes dans nos tarifs à nous, 40, 50 000. Eux, c'est l'équivalent d'une Rolls, quoi. C'est impressionnant.
C'est la fameuse berline qui charge 400 km en 5 minutes, qu'ils ont montré récemment, et qui chez nous serait à l'équivalent de 70 000 euros s'ils la vendaient, et qui est vendue l'équivalent de 27 000 euros en Chine.
Oui, c'est un autre monde. Mais bon, ça, on en est assez loin, parce qu'effectivement, toutes les voitures chinoises sont finalement pas si bon marché que ça en France pour l'instant.
Eh bien, merci à vous trois pour ces témoignages intéressants. Je mettrai en lien dans la description la série de Nicolas sur sa Model 3, donc qui date de 2021, et qui revenait en détail sur les différentes facettes du véhicule. Greg, merci d'être passé, à bientôt.
Mais de rien.
Cédric, à la prochaine.
Salut.
Nicolas, à bientôt.
Salut.
Et nous, on se dit à très vite pour un nouveau podcast. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.